moins le quart. Il revient donc sur ce projet, donc le projet Parker.
Oui, ce matin, on part en montagne. Pierre, direction le Vercors, où un projet immobilier fait débat. Le projet de complexe immobilier à Villard-de-Lans, surnommé le projet Parker, une résidence de 500 lits pour faire vivre la station l'hiver et l'été, vantent les promoteurs. Un projet disproportionné, estiment les opposants. L'occasion pour nous de débattre de l'avenir du tourisme en montagne. Pierre, trouvez-vous ce type de projet utile?
Faut-il les multiplier, hein, aussi, on peut le dire, peut-être aussi dans les massifs, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Au contraire, ben voilà, est-ce qu'il faut les interdire? Ben, donnez-nous votre avis, vous qui habitez en montagne, ou vous, ben voilà, qui pratiquez le loisir à la montagne, vous faites du ski, vous nous appelez, c'est le 04 76 46 45 45.
Et pour en parler, notre invité, Vincent Nérinck, de l'association Mountain Wilderness. Bonjour, monsieur Nérinck.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce projet et plus globalement de l'avenir du tourisme en montagne dans le contexte de changement climatique. J'aimerais d'abord, monsieur Nérinck, vous faire entendre une femme, Marie-Sophie Obama, c'est la présidente de la station de Villard-de-Lans-Corançon, qui défend ce projet à Villard-de-Lans. Écoutez.
Les gens qui viendront résider dans cette résidence de tourisme, ils viendront consommer dans les restaurants, au cinéma, faire une partie de bowling et faire vivre aussi le territoire. Je peux vous dire que parmi les gens que l'on n'entend pas, il y en a beaucoup qui viennent nous voir et qui nous disent « craquez pas, on a envie de pouvoir continuer à vivre ici et que nos enfants puissent avoir aussi des perspectives d'avenir ici ».
Voilà, ce projet, vous l'entendez, selon elle, permet de concilier les fins de mois et la fin du monde, permet l'avenir économique de la station de Villard-de-Lans, vous en pensez? C'est quoi ?
Je note qu'elle n'a pas parlé beaucoup de montagne dans son interview. Alors certes, c'était très court, mais bowling, cinéma, resto, je le fais n'importe où dans le monde. Que venir à Villard, à porte du parc naturel régional du Vercors, avec ses vues extraordinaires, c'est là et nulle part ailleurs. Et c'est peut-être ça le plus important, qui n'est pas du tout évoqué dans ce dossier, comme dans beaucoup d'autres, malheureusement.
Il y a tout de même derrière ce qu'elle dit, ça permet de faire vivre les gens qui habitent sur place, qui vivent sur place. Ça, c'est un enjeu qui est forcément prégnant dans le contexte de réchauffement climatique, où il y a moins de neige, il faut trouver d'autres activités, et du coup héberger des gens en montagne.
Alors, montagne à vivre, c'est l'un de nos credos depuis le début de l'association. C'est d'ailleurs un terme qui est repris, légèrement modifié, mais c'est des montagnes vivantes, dans le rapport du député Joël Giraud, monsieur Montagne du gouvernement, qui est sorti ce week-end, et dans lequel, justement, il préconise qu'on travaille à l'échelle des territoires sur l'avenir et sur la possibilité, la vivabilité, j'ai envie de dire, des territoires de montagne. Donc on partage les mêmes objectifs, mais on ne travaille pas au niveau de la station, d'un projet immobilier, on travaille au niveau d'un territoire. Et ce qui est remarquable d'ailleurs, par rapport à votre question sur faut-il ou pas immobilier pour que les gens viennent, etc., son rapport préconise, je le cite, « J'ai également demandé un moratoire sur tous les nouveaux programmes immobiliers, il faut faire une pause dans les constructions et prendre le temps de réfléchir pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. » Trop souvent, l'immobilier a été le moteur économique des stations. Là, il faut qu'on sorte de ça, il faut qu'on travaille à des échelles beaucoup plus larges, il faut qu'on travaille territoire.
Mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que depuis la période Covid, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par la montagne. Le club alpin, par exemple, n'a jamais eu autant de licenciés. Il y a un record aussi d'accueil dans les refuges l'été dernier. Donc, il y a un attrait pour la montagne. Il faut bien des hébergements pour les accueillir, ces gens-là.
Il faut des hébergements. Combien de lits froids est-ce qu'on dispose dans toutes les stations de France? C'est des centaines et des centaines et des milliers et des milliers. Il y a un vrai travail. D'ailleurs, le rapport Giraud, le rapport de la Cour des comptes le préconisent tous les deux. C'est travaillons à la réhabilitation et sortons des stations, j'ai envie de dire. Allons en montagne. C'est un des enjeux majeurs. Et oui, il faut accueillir les gens, mais il y a différentes manières de le faire. Et la station n'est pas l'alpha et l'oméga de la montagne. Ce que le projet Tony Parker renforce un peu sur cette, renforce même totalement sur cette partie du Vercors.
Après, aujourd'hui, dans ces stations, il y a des moniteurs de ski qui en vivent, il y a tout un tas de gens qui en vivent. Dire sortir des stations, c'est aussi un peu les condamner, entre guillemets, non ?
C'est pas moi qui les condamne. Je veux dire, globalement, aller faire du ski dans Chartreuse ce week-end, vous aurez un peu du mal à le faire à toutes les altitudes et la station est fermée et c'est normal, il n'y a pas de neige. Clairement, ne pas envisager cela comme un objectif, mais comme une finalité qu'on va tous subir à toutes les altitudes, avec des pas de temps différents, on est d'accord, c'est se tirer une balle dans le pied. Je veux dire, il y a un enjeu majeur de formation des professionnels de la montagne, moniteurs compris, pour justement être résilient à ces effets du changement climatique. Moi, je vais rappeler les mots du préfet Mirmand, le préfet coordonnateur du Massif des Alpes, dont on pourra difficilement douter de la pertinence et de la compétence. Devant Domaine Ski Alpes de France, devant le Congrès national de Domaine Ski Alpes de France, il a quand même été dit que le changement climatique n'était pas une crise. C'était un nouveau paradigme dans lequel on s'engageait pour plusieurs générations, pour toutes les générations qui vont venir. De toute façon, on ne va pas revenir en arrière, faut être clair. Donc, comment on fait justement pour s'adapter? C'est pas en disant je fais un nouveau produit Tony Parker pour faire la même chose qu'avant avec de l'escalade en salle et peut-être une salle de basket ou pour aller au cinéma ou au bowling qu'on s'engage sur la résilience de ces territoires. L'enjeu, il est au-delà de ça, très clairement au-delà de ça.
Se préparer pour l'après-ski, mais avant ça, il y a quand même une période de 20 ans, en tout cas, même peut-être en tout cas jusqu'en 2050, où il y a du ski qui est possible encore avec de la neige. Comment est-ce qu'on fait dans cette période-là?
Ça dépend où. J'ai cité la Chartreuse, là, c'est déjà mort. Et puis, pareil, comment vous faites des investissements?
On a pu skier quand même cet hiver en Chartreuse.
Oui, comment vous restez dans votre sillon? Regardez Grasse-en-Vercors, par exemple, pour rester dans le Vercors. Problème de neige, ça surprend personne, c'est un vrai sujet. Il y a même eu un référendum sur oui ou non les canons à neige financés en grande partie par la région. Le financement a été fait parce que les canons à neige permettent de préparer l'avenir et de financer la transition. Première année d'exploitation, on produit deux fois plus de neige artificielle que la saison précédente. On ouvre moins de jours et on a moins 300 000 euros de chiffre d'affaires, de pertes, je veux dire. Vous avez moins 300 000 de pertes. Comment vous financez quoi que ce soit avec des dettes supplémentaires, en plus d'avoir la nécessité à payer les emprunts que vous avez faits pour cofinancer les canons à neige? Comment vous préparez l'avenir avec ça? Et vous avez une bande de neige de 10 mètres de large au milieu de la prairie, et même en termes d'attractivité, jusqu'à quand vous faites venir des gens pour avoir ce type d'activité? Qui va payer combien et pendant combien de temps pour skier sur une bande de 5 mètres de large au milieu de la prairie? C'est un vrai sujet.
Comment imaginer l'avenir du tourisme en montagne? On en débat ce matin.
Absolument.
Et on en débat au Standard de France Bleu Isère.
Oui, 04 76 46 45 45. On aimerait bien avoir votre opinion sur ce sujet. On a justement Michel qui est avec nous. Bonjour Michel.
Oui, salut Pierre.
Il va pas trop mal, Michel. Michel, il habite Jarry et la montagne, c'est quelque chose qui est important pour vous, j'ai l'impression, Michel.
Ah bah écoutez, vu mes origines qui sortent de Loisan,
ouais.
Bon, là-haut, je pense qu'ils, pour l'instant, ils sont pas trop touchés. Ah, mais je pense que ça va être d'ici quelques années. Je pense qu'on ne verra plus de neige. Hein, ouais. Ça continue comme ça. Hein.
Alors par rapport à un tel projet justement, hein, celui donc de Tony Parker, vous en pensez quoi, Michel? Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce utile pour faire vivre justement toute cette population qui vivent autour du
ski, qui est attirée par la montagne et qui vivent autour du ski?
Je suis pas tellement pour. Hein. Je ne suis pas tellement pour parce que je pense que ça va être une grosse transformation du plateau du Vercors d'abord. Je ne vois pas tellement le projet d'un bon œil, hein. Honnêtement. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, ça.
Vous, Michel, vous allez régulièrement en montagne? Vous prenez des hébergements en montagne ou pas?
Non, vu mon jeune âge, je n'y vais presque plus. Hein. Hein, si ce n'est en vélo, et encore maintenant, j'ai arrêté. Hein.
Ouais. Ok, bon, très bien. Merci beaucoup, Michel, en tout cas, de nous avoir appelé, d'avoir participé à ce débat. Je reviens vers vous, monsieur Nérinck, de l'association Mountain Wilderness, Vincent Nérinck. Il y a un débat sur, effectivement, quel modèle pour le tourisme en montagne. Vous défendez quel modèle? Qu'est-ce qu'il faut développer dans les années à venir?
Je ne défends surtout pas un modèle, parce que c'est ce qu'on a fait pendant des décennies, c'est d'avoir un modèle unique qu'on plaquait partout sur les territoires. Tous voulaient être Courchevel, je la fais courte, mais vous me comprenez. Et on arrive à la situation d'aujourd'hui.
Mais c'est quoi concrètement la montagne vivante?
Dans le même système, je vais donner un autre exemple. On se dit, la solution, il n'y a plus de neige, il faut qu'on occupe les gens, parce que finalement c'est ça, il faut occuper les gens. Donc on fait quoi? On fait une luge d'été. Et on fait une luge d'été partout. Vous faites une descente, deux descentes, allez, trois descentes, et après, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a même des endroits où on vous met la luge d'été, qu'on déneige l'hiver. Pour pouvoir faire de la nuit d'été.
On a compris ce que vous ne vouliez pas.
Où on vous met un masque de réalité virtuelle pour que vous soyez ailleurs qu'à l'endroit où vous êtes.
On a compris ce que vous ne voulez pas. Qu'est-ce que vous voulez?
C'est une reterritorialisation du tourisme qui doit être appliquée sur un territoire en fonction de ce qu'est ce territoire, premier point, et deux, qui doit avoir sa juste place. Oui, c'est un outil économique, personne ne le nie, mais ça n'est qu'un outil économique au service d'un territoire. La station, c'est une partie de l'outil économique, mais qu'une partie seulement, y compris d'un point de vue économique, et déjà maintenant. Je vais quand même rappeler un certain nombre de chiffres. Un truc qui est totalement occulté, je vais se demander si c'est fait exprès ou pas. 2002, année internationale des montagnes, rapport du Sénat sur les premières années d'application de la loi montagne. Le directeur du service d'études et d'aménagement touristique de la montagne, un service d'État à l'époque, vient témoigner de la réalité économique des montagnes de France. Et bon an mal an, ce qu'il nous dit, c'est que 50% du chiffre d'affaires touristique de la montagne est l'hiver. Et donc l'été également. Là, on a eu des chiffres plus récents d'Atout France, qui nous dit que globalement, je ne les ai plus en tête, mais 4,8 chiffre d'affaires, 4,8 milliards d'euros chiffre d'affaires sur le périmètre station, 6,2 ou 6,3 hors station.
Développer la montagne hors station.
Alors que personne n'investit là-dessus, qu'il n'y a pas de publicité faite pour la France entière, l'Europe entière, la montagne égale le ski alpin. Comment on travaille tous ensemble à faire en sorte que ces choses évoluent et qu'on reconstruise un imaginaire de la montagne qui a été trop exclusivement axé sur l'enjeu ski alpin, y compris d'un point de vue économique, pour pouvoir s'affranchir de ces rails et de ce sillon. Je vais donner un exemple quand même. On participe à des réunions où il y a des élus du territoire qui nous disent « Ah, mais vous vous rendez compte ?» Des élus du territoire de Comcom, pas seulement de station. « Ah, la station, le ski alpin, c'est 90% de nos chiffres d'affaires. On peut rien faire d'autre. » Et quand on regarde, c'est pas vrai. Donc on part déjà et on prend des décisions politiques sur des analyses économiques qui sont fausses. C'est déjà un vrai enjeu.
On entend, et effectivement, c'est le défi pour les années à venir. Imaginez l'avenir du tourisme hors des stations, c'est en tout cas votre credo. Merci beaucoup, Vincent Nérinck, d'avoir été avec nous ce matin de l'association Mountain Wilderness. Belle journée à vous, merci.
Je vous en prie, merci beaucoup, au revoir.
Merci Théo. Dans un instant, 8h, le journal avec Laurent Gallien. Nous reviendrons sur cette nouvelle grève prévue pour le week-end prochain à la SNCF. Des coups de feu ce week-end dans la métropole grenobloise. Un homme a été blessé hier à Échirolles. Et un autre était abattu samedi à Saint-Martin-d'Hères. Il est 7h50.